Évangile selon Jean, chapitre 14. La maison de mon Père, versets 1 à 3.
Lecture de la parole. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi.
Lecture de l'étude. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, verset 1er. Voyant les disciples troublés à la pensée de son départ qui les laissait dans ce monde, sans avoir établi son royaume en gloire, le Seigneur veut les rassurer en dirigeant leur cœur vers lui, là où il allait aller. Il sera pour eux un objet de foi. Ils devront croire en lui sans le voir, comme ils avaient cru en Dieu qu'ils n'avaient jamais vu. C'est ce qu'ils comprirent ensuite. L'apôtre Pierre dit en parlant du Seigneur, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, verset 8. Les disciples connurent mieux le Seigneur et jouirent de lui davantage après son élévation au ciel que lorsqu'il l'avait au milieu d'eux. Au lieu de les entretenir du royaume qu'il établirait un jour, Jésus leur parle de la maison de son Père. « Dans la maison de mon Père, leur dit-il, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. » Verset 2. Quelle bénédiction, quel honneur pour des hommes si faibles, si misérables en eux-mêmes. Dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Plusieurs ne signifie pas quelques-unes seulement, mais pour tous. En contraste avec la maison de Dieu sur la terre, où l'on ne pouvait entrer librement ni séjourner, Jésus voulait avoir les siens avec lui dans ce lieu béni, que lui seul connaissait et appréciait. La maison de mon Père implique tout ce qu'il y a de plus intime et de plus heureux pour le cœur du Fils. Pour qu'ils y occupent une place, elle doit leur être préparée, et ils doivent se trouver dans un état propre pour y entrer. Jusqu'alors, aucun homme n'avait pu entrer dans le ciel. Au contraire, l'homme chassé du paradis terrestre après la chute pouvait encore moins entrer dans le paradis céleste. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur a rendu les siens propres à être dans la maison de son Père et, comme nous l'avons vu au chapitre 13, il fait constamment ce qui est nécessaire pour qu'il jouisse de sa communion là où il est, lorsque le péché l'a interrompu. Mais pour qu'il trouve la place prête, il a fallu que Christ, homme, entrât dans le ciel après avoir passé par la mort. Si Dieu le recevait dans sa glorieuse présence, la place était prête pour tous ceux qui étaient au bénéfice de sa mort et auxquels il avait révélé Dieu comme Père, et le Seigneur viendra les chercher pour les y introduire. Il dit aux disciples, « Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. » Verset 3. Rien ne pouvait réjouir à un si haut degré le cœur des disciples, et celui de tous les croyants, que cette merveilleuse déclaration. Notre précieux Sauveur a fait lui-même tout le nécessaire pour le bonheur présent et éternel de ses bien-aimés. Il les rend propres pour la présence de Dieu son Père. Il leur a préparé une place dans la maison de son Père, et il reviendra lui-même les chercher pour les y introduire. « Je viendrai, dit-il, et je vous prendrai auprès de moi. Il n'envoie pas un ange pour les chercher. » L'apôtre Paul dit aussi, « Le Seigneur lui-même descendra du ciel. » 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La pensée de la séparation d'avec le Seigneur troublait les disciples. Les voici maintenant assurés d'une part céleste et éternelle dans la maison du Père, bien meilleure que le règne glorieux de Christ ici-bas, auquel leurs pensées demeuraient attachées. Quelle joie dut remplir leur cœur lorsque, plus tard, ils comprirent tout ce que le Seigneur leur disait alors. Le chemin, versets 4 à 7.
Lecture de la parole. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Lecture de l'étude. Jésus dit encore aux disciples, « Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Versets 4 et 5. Les disciples n'avaient pas saisi que Jésus était la révélation de Dieu comme Père, principal sujet de cet évangile. C'est pourquoi ils ne comprennent pas ce qu'est la maison du Père, où Jésus allait leur préparer une place et d'où il reviendrait pour les prendre avec lui. Il leur répondit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, versets 6 et 7. Le Seigneur ne dit pas qu'il est le chemin pour aller au ciel, si vrai que cela soit, mais pour aller au Père. Il s'est évidemment chargé de tout accomplir pour que ceux auxquels il révélait le Père puissent aller au ciel. Personne, jusqu'à Christ, n'avait révélé Dieu comme Père, ni la création, ni la loi, ni les prophètes. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'avait fait, et cela lorsque Dieu n'avait plus rien à attendre de l'homme. La réponse au refus de recevoir Jésus, parole, vie et lumière, est merveilleuse. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Chapitre 1, verset 12. En recevant Jésus, on arrive au Père, dont il est la révélation. Ainsi, il est seul le chemin. Il est aussi la vérité. Celui qui met toutes choses en lumière, telles qu'elles sont aux yeux de Dieu. Par Jésus, nous savons ce qu'est le bien, le mal, l'homme, le monde, Dieu lui-même, et par conséquent, Dieu comme Père. Il est la vie, nécessaire pour jouir de tout ce qu'il nous a révélé, car, par notre vie naturelle, nous en sommes incapables. C'est pourquoi Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». En venant au Père, on possède la vie éternelle, et par conséquent le ciel, domaine de cette vie. On connaît la maison du Père. On se rend facilement compte de la maison d'une personne que l'on connaît intimement, que l'on aime, quoiqu'on ne l'ait jamais vue chez elle. Le Seigneur, qui jouissait de tout ce qu'était le Père pour lui, l'a pleinement révélé. Il dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Chapitre 17, verset 8. Aussi, nous comprenons un peu ce qu'il exprime lorsqu'il parle de la maison de mon Père et le bonheur qu'il y a pour nous d'avoir une place dans la maison d'un tel Père, le Père du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il peut dire, « Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Verset 7. Qui m'a vu, a vu le Père. Versets 8 à 14.
Lecture de la parole. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai.
Lecture de l'étude. Cette déclaration du verset 7 suscite une nouvelle difficulté pour les disciples. Philippe lui dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit » verset 8. C'est précisément ce qu'ils auraient dû voir en Jésus, mais ils ne l'ont pas connu tel que cet évangile le présente. Jésus répond « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père ?» Verset 9. Le ministère du Seigneur était terminé, et tout ce temps n'avait pas suffi aux disciples pour connaître qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Jésus, personne divine, distincte du Père, était, quoique homme ici-bas, en son Père, et ce qu'il manifestait dans sa vie, en paroles et en œuvres, était le Père. Aussi, dit-il, les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes, versets 10 et 11. Jésus ne parlait pas d'une manière indépendante de son Père, ni de son propre fond. Il y avait unité parfaite. Moi et le Père, nous sommes un, chapitre 10, verset 30. En le voyant, on voyait le Père. Il avait revêtu l'humanité pour qu'une chose si merveilleuse puisse s'accomplir, car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler, Matthieu 11, verset 27. L'évangile selon Jean nous présente tout spécialement cette révélation. Si les paroles du Seigneur ne suffisaient pas aux disciples, témoins de ses œuvres, ils auraient dû croire grâce à ce qu'ils voyaient. Une chose merveilleuse allait découler de la venue de Jésus ici-bas, preuve de ce qu'il avait été. Lorsqu'il serait glorifié, celui qui croirait en lui ferait ses œuvres qui prouvaient que le Père était en lui, et lui dans le Père, et il en ferait de plus grandes, parce qu'en croyant il posséderait la même vie et la puissance du Saint-Esprit. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père, verset 12. En allant au Père, le Seigneur recevrait le Saint-Esprit qu'il enverrait, comme il le dit plus bas, pour être avec les croyants. À cause de la victoire remportée par le Seigneur sur la puissance de Satan, le Saint-Esprit pourrait accomplir librement, au moyen des croyants, des œuvres provenant de la même source que celles que Jésus faisait ici-bas. C'est pourquoi ils en feraient de plus grandes, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Une seule prédication de Pierre amena la conversion de 3000 personnes. Au nom de Jésus, les apôtres disposaient de sa puissance, et le Père était glorifié dans le Fils au moyen des disciples. Car Jésus leur dit, « Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Versets 13 et 14. Glorifié par tout ce que Jésus avait accompli sur la terre, le Père le serait maintenant dans le Fils, qui pourvoirait à tout ce dont les disciples auraient besoin pour continuer à agir comme le Seigneur, sauf l'œuvre de la croix, cela va sans dire, puisque c'est en vertu de cette œuvre qu'ils accompliraient les leurs. Mais si les disciples deviennent capables de disposer de la même puissance que le Seigneur, c'est dans une dépendance entière vis-à-vis de lui, comme lui avait été dépendant de son Père. Ils recevront tout ce qu'ils demanderont au Père au nom du Fils, et lui le fera pour que son Père soit glorifié. La prière qui s'adresse à Dieu au nom de son Fils a en vue sa gloire. S'il en est ainsi, nous pouvons demander ce que nous voulons. Cela exclut toute requête se rapportant au moi. Si nous sommes animés des pensées du Fils à l'égard de son Père, nous pouvons compter sur l'exaucement de nos prières, car nous ne demanderons que des choses qui peuvent nous être accordées. Le Consolateur, versets 15 à 20.
Lecture de la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous.
Lecture de l'étude. Seigneur ne peut conduire ses disciples plus avant dans la connaissance de la nouvelle position où il les introduirait en vertu de sa mort, position céleste avec lui, en contraste avec la position terrestre, mais glorieuse, où ils auraient partagé sa gloire s'il eût été reçu comme roi. Il leur promet le Consolateur, l'Esprit Saint, pour être avec eux et leur révéler toutes les conséquences merveilleuses de son œuvre en leur faveur, les entretenir de sa personne, leur faire connaître leur position nouvelle et les conduire au travers de ce monde jusqu'au jour glorieux où ils arriveraient dans la maison du Père. La tristesse des disciples, occasionnée par le départ de Jésus, provenait de leur amour pour lui. Mais il leur dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, verset 15. » Vrai moyen de lui montrer leur amour au lieu de s'attrister de son départ, ce qui est vrai aussi pour nous. Cependant, le Seigneur, sensible à leur peine, leur dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur pour être avec vous éternellement. » L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Versets 16 et 17. Ce Consolateur ne les quittera pas et les consolera en les occupant de la personne de Jésus durant leur séjour ici-bas et aussi dans la gloire éternellement. Il sera la puissance par laquelle ils accompliraient leur service et seraient les témoins du Seigneur. Il ne viendra pas pour le monde. Le monde, qui se réjouit du départ de Jésus, n'a pas besoin de consolation. Le Fils de Dieu, seconde personne de la Trinité, a accompli dans ce monde toute l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Le monde l'a rejeté, mais quelques-uns l'ont reçu. C'est donc pour cela seulement que viendra l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, non pas proprement pour remplacer le Seigneur, mais afin de faire valoir tout ce qu'il est pour les siens et tous les résultats de son œuvre, de telle sorte que les disciples le connurent mieux depuis son départ que lorsqu'il était avec eux ici-bas. Quel encouragement pour eux et pour les croyants de tous les temps. Depuis sa venue jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit est ici-bas. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du temps de l'absence du Seigneur, mais malgré tout le désordre qui règne dans la chrétienté, le Saint-Esprit, le Consolateur, s'acquitte fidèlement de son service en faveur de tous ceux qui s'attendent à lui. Il demeure avec les croyants, ils le connaissent. Le monde ne le connaît pas et ne croit pas même à son existence. Il habite dans le croyant, sceau par lequel Dieu le reconnaît comme son enfant, onction qui le rend capable de connaître les choses de Dieu. Il est aussi lézard de l'héritage, et plus encore. Nous ne pouvons énumérer ici tout ce qu'il est et tout ce qu'il accomplit, et nous en verrons quelque chose encore dans les chapitres suivants. Jésus ajoute, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous », verset 18. Les disciples ne seront pas comme des enfants abandonnés, privés de soins paternels. Par l'action de l'Esprit, le Seigneur viendra à eux. Quant au monde, tout allait prendre fin. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez, verset 19. Les croyants voient le Seigneur d'une manière plus avantageuse que lorsqu'il était corporellement ici-bas. Individuellement, et réunis en son nom, nous jouissons de sa présence et pouvons dire, comme les disciples, le soir de sa résurrection, nous avons vu le Seigneur. Non seulement nous avons ce privilège, mais notre vie est liée à la sienne pour le temps et l'éternité. Nous vivons de sa vie ici-bas, et nous vivrons de cette vie dans la gloire lorsque nous lui serons rendus semblables. Telle est la portée de cette expression « vous vivrez ». Il y a plus encore. En ce jour-là, dit le Seigneur, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Verset 20. Il connaîtrait que, comme Jésus était dans le Père ici-bas, verset 10, il le serait dans la gloire. En outre, chose qui ne pouvait avoir lieu pendant que Jésus était au milieu d'eux, il serait en lui, dans la gloire, et lui en eux ici-bas, pour être la manifestation de Jésus dans toute leur vie devant le monde. Vous en moi, devant le Père, et moi en vous, devant le monde. Il réaliserait cela par la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit de la position individuelle du croyant, position merveilleuse que le monde ne peut comprendre et dont nous réalisons peu la beauté et la valeur. Si nous en jouissions davantage, nous manifesterions plus fidèlement que Christ est en nous. Il serait vu du monde. Les disciples, à Antioche, le réalisaient, puisque c'est là que, pour la première fois, ils furent appelés du nom de Christ, chrétiens. Acte 11, verset 26.
Ce fut à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens.
Puisse notre marche être digne du nom que nous portons. Le nom exprime le caractère de l'individu.
Aimer, c'est obéir, versets 21 à 24.
Lecture de la parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. »
Lecture de l'étude. Au verset 15, les disciples devaient montrer leur amour pour le Seigneur en gardant ses commandements, et le Seigneur prierait donc le Père de leur envoyer un autre consolateur. Au verset 21 à 23, le Seigneur présente d'autres conséquences de l'amour pour lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. On ne peut manifester son amour pour le Seigneur qu'en obéissant à ses commandements. Pourquoi employer de belles expressions pour témoigner de son amour pour lui si l'on marche contrairement à ses pensées en se laissant diriger par sa propre volonté? Que penserait-on d'un enfant qui désobéirait toujours à ses parents tout en disant qu'il les aime beaucoup? Les commandements du Seigneur sont exprimés par sa vie entière, par tout ce qu'il a dit et fait. Il sert de modèle à ceux qui, par la foi, le possèdent comme leur vie. Pour eux, toute sa vie, ses actes, ses paroles font autorité. Ils ne viendraient pas à l'idée de prendre la loi de Moïse pour diriger celui qui connaît Christ comme sa vie et son modèle. Cette loi, servait à l'homme pour obtenir la vie s'il le pouvait. Elle était sainte, juste et bonne. Romains 7, verset 12.
La loi donc est sainte et le commandement est saint et juste et bon.
Personne n'a pu l'accomplir. C'est pourquoi Dieu donne aux croyants la vie qui est dans son Fils, qui a eu sa manifestation parfaite en lui, homme sur cette terre. Donc, ce que Jésus a été ici-bas remplace les commandements de la loi, les dépasse et fait autorité pour le chrétien. L'amour pour le Seigneur est le mobile d'action du croyant. Il est alimenté par la connaissance de sa personne, de sa marche, de son dévouement jusqu'à la mort, de ses souffrances. S'il ne s'occupe pas du Seigneur, s'il ne vit pas de lui, il ne peut marcher sur ses traces. En jouissant de l'amour du Seigneur, on gardera ses commandements, et le même apôtre dit qu'ils ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3.
Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.
Le Père, pour qui son Fils a un prix infini, aimera celui des siens qui manifestera son amour pour lui en gardant ses commandements. Ici, ce n'est pas l'amour de Dieu pour le pécheur, mais l'amour spécial du Père pour un de ses enfants qui aime son Fils. Puis le Fils, sensible à l'amour que lui témoigne un des siens, l'aimera aussi d'un amour particulier et se manifestera à lui, lui fera connaître intimement les gloires de sa personne, avantage merveilleux pour les disciples affligés par son départ. Ils connaissent désormais le moyen par lequel leur Seigneur se manifestera à eux, puissions-nous tous réaliser une part si bénie. Pour le moment, les disciples ne comprirent pas le sens des paroles du Seigneur. Jude, non pas Judas, qui pensait encore à une manifestation publique et glorieuse de Jésus comme roi, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde ?» Verset 22. Il ne comprenait pas qu'il s'agissait d'une manifestation spirituelle de sa personne à l'âme du disciple obéissant. La grande bénédiction du croyant consiste à connaître toujours mieux la personne du Seigneur. Cette connaissance ne peut se réaliser que dans une vie d'obéissance. Dans sa réponse à Jude, le Seigneur n'explique pas de quel genre de manifestation il s'agit. Le Saint-Esprit le ferait dans la suite. Mais il mentionne une bénédiction encore plus intime pour celui qui, non seulement gardera ses commandements, mais sa parole. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé, versets 23 et 24. La parole du Seigneur a quelque chose de plus intime que ses commandements. Elle n'est saisie que dans sa proximité, par celui auquel le Seigneur se manifeste. Elle le dirigera dans sa marche alors qu'un autre ne verrait en elle aucune direction. En conséquence, celui qui la garde jouira, dans une plus grande mesure, de l'amour et de la communion du Père et du Fils. Le cœur en sera rempli, et dans cette demeure, il n'y aura place pour nul autre. État bienheureux et enviable, c'est le ciel sur la terre, car en attendant d'être dans les demeures de la maison du Père, le croyant peut être la demeure du Père et du Fils. Jésus rappelle encore aux disciples l'origine de tout ce qu'ils ont entendu de lui. C'est le Père qui a parlé en lui. La parole du Fils est celle du Père qui l'a envoyé. Autres avantages du départ de Jésus, versets 25 à 31.
Lecture de la parole. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient et il n'a rien en moi, mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici.
Lecture de l'étude. Le Seigneur ne pouvait pas enseigner plus longtemps ses disciples. Le Saint-Esprit viendrait et leur dirait ce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre alors. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites, versets 25-26. Le Saint-Esprit fera valoir toutes ces paroles de Jésus, si incompréhensibles aux disciples lorsqu'ils les entendaient. Elles deviendront lumineuses à leurs yeux, à leurs voilées. On voit cela tout particulièrement dans les épîtres de Pierre, empreintes de ce qu'il a entendu et vu du Seigneur. Si l'on compare la manière dont il parle de la transfiguration dans sa deuxième épître, chapitre 1, versets 16 à 18, avec ce qu'il en dit en Luc 9, verset 33, on voit quelle lumière le Saint-Esprit avait apporté dans son âme sur ce merveilleux sujet. Chapitre 1, versets 16 à 18.
Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous, nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne.
Et Luc 9, verset 33.
Et il arriva, comme il se séparait de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici et faisons trois tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. »
C'est aussi le Saint-Esprit qui a inspiré aux auteurs des quatre évangiles ce qu'ils ont écrit et la manière dont chacun devait rapporter les faits dont ils furent témoins. Ils n'ont pas été laissés à leur souvenir pour le faire, comme on l'entendit souvent. Le Saint-Esprit les inspirait et leur rappelait les choses que Jésus avait dites et faites. Dans notre passage, c'est au nom du Fils que le Père envoie l'Esprit. On voit encore l'unité qui existe entre le Père et le Fils dans l'envoi du Saint-Esprit. Au verset 15, le Fils prie le Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Le Père répond au Fils en l'envoyant en son nom. Au chapitre 15, verset 26, c'est le Fils qui l'envoie d'auprès du Père, car il l'a reçu comme homme glorifié, pour en faire part à ceux qui l'a racheté. Voir acte 2, verset 33.
Ayant donc été exalté par la droite de Dieu, et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez.
Psaume 68, verset 18.
Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité, tu as reçu des dons dans l'homme, et même pour les rebelles, afin que Jah, Dieu, ait une demeure.
Cela fait comprendre l'importance de l'envoi du Saint-Esprit et le privilège que le chrétien possède, puisqu'il est toujours sur la terre, actif envers quiconque se soumet à la parole par laquelle il agit malgré la ruine actuelle de l'Église professante. « Je vous laisse la paix, dit encore le Seigneur, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. » Verset 27. Encore un autre avantage dont les disciples n'avaient pas joui pendant que Jésus était avec eux. Paix parfaite quant à leur culpabilité, toute la question des péchés étant réglée à la croix pour ceux qui croient. La seconde paix est celle dans laquelle le Seigneur lui-même a toujours vécu, sa paix. En jouissant de la première, ils étaient rendus capables de jouir de celle qui avait appartenu à Jésus seul avec son Dieu. Rien n'avait pu la troubler, ni l'opposition de Satan et du monde, aucune souffrance, ni aucune circonstance quelconque. Aucun nuage ne s'était interposé entre lui et Dieu dans sa carrière d'homme parfait. Cette paix, désormais la part des disciples et de tous les croyants, a été laissée par le Seigneur à la disposition de chacun. Les disciples ne pouvaient en effet n'être ni troublés ni craintifs s'ils réalisaient ces deux genres de paix. Jésus ne donne pas comme le monde qui, s'il donne quelque chose, ne le possède plus. En leur donnant sa paix, Jésus la gardait toujours, et tous peuvent en jouir. La jouissance commune des choses que Dieu donne ne fait qu'en augmenter la valeur, au lieu d'amoindrir la part de chacun, tandis que, plus on est nombreux pour partager les biens de la terre, moins on en possède. Jésus leur dit encore une chose propre à bannir de leur cœur la crainte et le trouble. « Vous avez entendu que moi je vous ai dit je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. » Verset 28. Les disciples, encouragés par la pensée qu'ils reverraient Jésus, auraient dû se réjouir en sachant qu'il allait entrer dans la gloire qu'il avait quittée pour venir dans ce monde où il n'avait pas trouvé un lieu pour reposer sa tête. Il devait l'aimer assez pour jouir de son bonheur. Il s'en allait au Père. Il exprimait en cela une joie que les disciples savaient peu apprécier, puisqu'ils avaient si peu connu le Père révélé par Jésus. Il avait dit aux siens tout ce qui pouvait les assurer que son départ ne leur était pas désavantageux. S'ils avaient moins pensé à eux-mêmes, et davantage au Seigneur, en l'aimant comme ils auraient dû, ils auraient trouvé une vraie consolation dans le fait qu'il allait à son Père. Nous pouvons aussi réaliser une consolation semblable lorsqu'un de nos bien-aimés nous quitte pour aller auprès du Seigneur. Tout en éprouvant la douleur de la séparation, on ressent une vraie consolation en sachant quel est son bonheur, présent avec le Seigneur, à l'abri de toute souffrance. Et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyez. Verset 29. Jésus avait ainsi parlé de tout ce que les disciples avaient besoin de savoir, afin qu'ils crussent en voyant se passer les choses telles qu'il leur avait dites, car ils rencontraient beaucoup de choses pénibles sur leur chemin, mais leur foi dans les paroles du Seigneur les soutiendrait pour leur aider à surmonter toute difficulté. Jésus leur dit encore, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici. » Verset 30 et 31. Le Seigneur et ses disciples se trouvaient encore à l'endroit où Judas les avait laissés. L'heure de la croix s'approchait. Encore quelques entretiens sur le chemin qui conduisait en Gethsémané, qui se terminèrent par la sublime prière du chapitre 17, et le service du Seigneur au milieu des siens serait achevé. C'est pourquoi il dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous ». Il laisse, pour ainsi dire, la place à Satan qui va apparaître à la tête du monde, dont il est appelé le chef, en vue de remporter sur le Seigneur une victoire définitive. Jusque-là, les hommes, sous l'influence de l'adversaire, avaient toujours résisté aux moyens par lesquels Dieu s'était occupé d'eux depuis l'entrée du péché dans le monde. D'autre part, sachant que la semence de la femme devait lui briser la tête, c'est-à-dire lui ôter son pouvoir, Satan a maintes fois cherché à en empêcher l'introduction dans le monde. Son dernier effort dans ce but fut le massacre des petits-enfants de Bethléem. Il croyait atteindre Jésus. Il échoua, mais il n'a pas des armées pour cela. Il devait combattre jusqu'à sa ruine. Par sa vie parfaite, tout amour et lumière, Jésus s'est attiré la haine de toutes les classes de la société sous l'influence diabolique de celui auquel il donne le titre de « chef du monde ». Et au terme de son ministère, les chefs religieux, le peuple, Hérode, Ponce Pilate, les soldats romains, tous se rassemblèrent sous la conduite de Satan pour ôter de la terre l'homme parfait, le Fils de Dieu. Mais ils ne se sont réunis que pour assister à la défaite complète de leur chef, pour la raison qu'en donne le Seigneur au verset 30, « Le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. » Homme parfait, descendu du ciel pour accomplir la volonté de Dieu, il a marché au milieu de la souillure de ce monde sans jamais en être atteint. Il a subi tous les assauts de l'ennemi et la haine des hommes. Il est arrivé au terme de sa course dans ses perfections absolues, aussi propre pour rentrer dans la gloire que lorsqu'il la quitta, sans avoir besoin de passer par la mort. Mais il veut y passer par amour pour son Père et non par nécessité personnelle. La mort est la conséquence du péché, et il n'y a point de péché en lui. S'il y passe, c'est à la place des coupables dont il veut porter le châtiment, et il en sortira vainqueur, après en avoir subi toute l'horreur, parce qu'étant sans péché, il n'a aucun pouvoir sur sa sainte personne. C'est ainsi que, par sa mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Hébreux 2, versets 14 et 15. Le monde devait connaître, verset 31, que c'est par amour pour son Père que Jésus passerait par la mort ignominieuse de la croix, et non comme un malfaiteur ou comme les hommes qui meurent parce qu'ils ont péché. Il y va par obéissance, selon que le Père m'a commandé, pour rendre possible l'accomplissement des conseils de Dieu. N'a-t-il pas dit, « À cause de ceci le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie afin que je la reprenne. » Chapitre 10, verset 17. Ce bien-aimé Sauveur n'avait plus rien à faire là. Tout était accompli jusqu'à la mort. Il peut dire, « Partons d'ici. » Il effectuait ce qui est dit de lui sous la figure du serviteur hébreu, J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Exode 21, verset 5. Lorsque son âme a été troublée en présence de l'heure de la mort, il dit à son père, C'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Chapitre 12, verset 27.